Bon après-midi à tous et à toutes. On a eu une fin de semaine bien remplie et bien bénie lors de notre Assemblée générale annuelle de notre très petite association. Mais vraiment, le Seigneur est venu nous rencontrer littéralement. Et c'était une très grande grâce que de partager ces moments-là entre frères et sœurs tout au long de la fin de semaine. Comme je disais à Christian tout à l'heure et à Mathieu, on s'est reposé toute la fin de semaine, maintenant on commence à travailler. C'est toujours agréable de prêcher la parole de Dieu et on sait qu'il a toujours cette capacité, n'est-ce pas, de nous relever. J'aimerais presque citer hors contexte ce verset que nous avons lu ce matin dans le psaume 61. « Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Hein? » Chaque fois qu'on travaille pour le Seigneur et qu'on a une mission pour lui, c'est un rocher finalement qu'on ne puis atteindre. Mais le Seigneur, dans sa grande bonté, fait en sorte de nous y conduire. Nous allons revenir où nous avons laissé lors de notre dernière rencontre sur l'Apocalypse, c'est-à-dire au chapitre 17. Et nous allons lire les versets 7 à 18. Apocalypse, chapitre 7, les versets 7 à 18. Nous allons, avec révérence, quand même rester assis pour la lecture de la parole du Seigneur. L'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. » Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Amen. Que le Seigneur bénisse ce texte qui, à première lecture, ne tombe pas sous le coup de la simplicité, mais qui n'est pas si compliqué que cela lorsqu'on respecte les règles normales de l'herméneutique. Bien-aimés, j'espère que nous serons certainement tous d'accord pour dire que le monde dans lequel nous vivons est un monde de désordre, un lieu de désordre. Ce qui n'est pas à dire, cependant, parce que nous avons tendance, comme chrétiens, parfois, à devenir négatifs vis-à-vis de tout ce qui existe dans le monde, ce qui n'est pas à dire qu'il n'y a rien de bon dans le monde. Parce qu'en raison de la grâce de Dieu, il y a du bon, il y a du beau, il y a du vrai dont nous jouissons. C'est dire que le monde n'a pas été radicalement, complètement livré au péché et à ses effets. Il y a encore quelque chose, il y a encore une action du Créateur que nous y voyons. On parle ici de providence, entre autres. Hein? Matthieu 5, 45 nous dit que le Seigneur fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Acte 17, 28 nous dit que nous avons en lui la vie, le mouvement et l'être. Ce qui plus est, Dieu a bien voulu révéler à ses élus sa grâce à salut. Nous, chrétiens, ne pouvons pas être absolument négatifs quant au monde dans lequel nous vivons. Il nous est tous arrivé, dans certaines circonstances, de dire « Quelle merveilleuse création !» Moi, lorsque je suis sur mon patio, que les oiseaux viennent dans les mangeoires, je les entends roucouler, j'entends chanter, les écureuils traversent le fil, là, traversent la terre. Enfin, il y a tellement de belles choses, les fleurs qui sont là, qui viennent captiver notre odorat. Quelle merveilleuse création! Nous sommes tous arrivés de dire quel monde merveilleux. Et nous avons bien raison. C'est le monde de notre Dieu. Nous savons cependant qu'il y a un important revers de médaille. En raison de la chute en Éden, nous rappelons que symboliquement, nous vivons, passez-moi l'expression parce que la Bible l'emploie, nous vivons à Babylone. Nous vivons dans un monde déchu, et ce n'est pas peu dire. La ville de Babylone, faut-il le rappeler, a été fondée par Nimrod, qui n'est pas un modèle de vertu. Hein? On n'entend jamais, lorsque les gens implorent les saints, dire « Saint Nimrod, priez pour nous hein? ». C'était loin d'être un modèle de vertu. On le retrouve dans Genèse 10, versets 8 à 11, entre autres. Et le mot « Babylone » signifie « la porte des dieux ». Et dans le récit biblique, ce mot-là prend cependant un tout autre sens en raison d'un jeu de mots introduit à partir de la racine hébraïque qui veut dire « bredouiller » et « confondre ». On sait que les langues, entre autres, ont été confondues. Et c'est ce monde confus et bredouillant dans lequel nous vivons. L'Apocalypse nous révèle, entre autres, ce qui ne va pas dans le monde, à savoir la source des difficultés qui nous assaillent. Par le biais de visions symboliques, derrière tout le péché, derrière toute la souffrance qui règne dans le monde, se livre un combat ancien, un combat cosmique et un combat spirituel. Mon premier point, la bête et son apparition. Permettez-moi juste de prendre un peu d'eau. Donc ici, au chapitre 17, nous en apprenons davantage quant à l'œuvre de Satan dans le monde dans lequel nous vivons. Satan n'agit pas toujours directement pour séduire les élus, pour séduire ses sujets et les garder captifs. Mais il fait souvent appel à des agents. Et le verset 6 de nous dire... Et c'est l'apôtre qui parle. « Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. » Il était littéralement renversé, ébloui, pas émerveillé, mais complètement obnubilé par la situation, voyant la puissance de cette dernière. Lorsqu'il la vit, donc, Jean fut complètement renversé. Et l'ange de lui répondre, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Et cette interprétation, bien sûr, que l'ange allait lui donner, se voulait simplement un encouragement à l'apôtre pour persévérer dans la foi. Mais à partir de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, nous sommes familiers avec la bête. Cette bête qui représente le pouvoir violent du monde contre Dieu et contre le peuple de Dieu. Et dans sa première mention, au chapitre 11, elle exerce une puissance contre les 2 témoins. Qui étaient ces 2 témoins-là? C'était bien sûr le symbolisme de l'Église elle-même, hein? Symbolisant les martyrs de l'Église jusqu'à ce que Dieu les ressuscite et juge la bête, au verset 7 à 13 du chapitre 11. Au chapitre 12, nous apprenons que le maître de la bête, le dragon, aux 7 têtes, Satan, échoue dans sa guerre contre l'Église, qui le conquiert par le sang de Christ et par la parole de leur témoignage. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Et au chapitre 13, Jean voit encore la bête. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ben oui, elle fait la guerre aux saints. Vous voyez? Elle fait la guerre aux saints, Dieu lui permettant de les conquérir, mais pour un temps limité. Ça nous étonne, ça nous choque, au sens littéral du mot, que de voir que l'ennemi conquiert l'Église, même si ce n'est que pour un temps. Il y a une réalité qui nous dit effectivement que l'Église sera, jusqu'à un certain point, sclérosée par les attaques répétées, soutenues de l'ennemi. Et cet arrière-plan s'inscrit en parfaite harmonie avec la description que nous avons ici au verset 8. « La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. » Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Ben, c'est précisément le modèle qui suit le cours de Satan dans l'histoire. Il était et il n'est plus. Il régnait dans le péché sur les nations jusqu'à sa défaite par le Christ en croix. Et ça ne minimise aucunement l'activité maligne de Satan aujourd'hui. Cependant, sa puissance, elle est restreinte de sorte que l'Évangile peut se répandre dans le monde, comme nous le verrons au chapitre 20, verset 3, puisque nous sommes tous des amillénaristes. Subtil, hein? Nous avons donc ce patron, nous avons ce modèle récurrent de la bête dans l'histoire. Nous avons eu le pharaon d'Égypte. Nous avons eu Sennachérib en Assyrie, sans parler de Nébuchadnezzar en Babylonie, qui a persécuté les croyants de l'époque, hein, dans l'Ancien Testament. Et entre les 2 testaments, nous avons Antioche Épiphane, et nous avons vers la toute fin de la période de 400 ans, Hérode le Grand qui se pointe et qui va tenter effectivement d'enlever la vie à Jésus et bien d'autres encore. Tous ces tyrans ont eu leur moment de puissance pour répandre le sang jusqu'à ce que Dieu y mette un terme. Ils étaient et ils ne sont plus. Mais, parce qu'il y a un mais, comme le dit le verset 8, elle reparaît la bête. Elle reparaît avec Néron et la persécution des chrétiens. Elle réapparaît au temps de Jean avec la menace de l'empereur Domitien. Et ça continue jusqu'au retour du Christ Jésus. Et cette réalité-là, lorsqu'elle est bien saisie, permet aux chrétiens une juste évaluation de son existence. Lorsque nous vivons des moments de tranquillité et de paix, soyons conscients que le mal ne tardera pas à revenir. On ne peut pas dire, enfin c'est terminé. Non, ça va l'être au retour du Christ. Mais d'ici là, sachons qu'il sera toujours récurrent, le mal. Quant aux chrétiens sur le point de crouler sous la persécution, ben, ils doivent se rappeler que la bête qui s'est levée sera bientôt défaite, c'est ce que nous dit le verset 8. Elle doit monter de l'abîme, puis une virgule là, et aller à la perdition. Quelle consolation trouvons-nous dans l'Apocalypse? C'est un livre génial. Quelle bonne nouvelle avons-nous en constance dans l'Apocalypse, hein? Au chapitre 17, nous sommes introduits à un troisième agent. Et ce troisième agent-là, il est appelé la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, au verset 1. Son nom nous est révélé au verset 5. Hein, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Alors, bien sûr, cette bête-là symbolise, cette prostituée-là symbolise tout ce qui s'appelle séduction du monde. Argent, puissance, gloire, immoralité sexuelle et tout ce qu'il y a d'ordurier dans l'agir du malin. Hein, tout ce qu'il utilise pour gagner le cœur de l'homme et l'amener loin de l'adoration du vrai Dieu pour l'amener effectivement vers l'idolâtrie. C'est intéressant de noter au passage au verset 3 que la femme était assise sur la bête écarlate. Bon, on ne parlera pas de la couleur, mais quand même, même si elles représentent ces deux bêtes-là, deux identités différentes, elles œuvrent en partenariat. La bête représentant le pouvoir politique qui persécute et la prostituée qui symbolise le monde dans toute sa séduction et dans tous ses plaisirs. Et la prostituée chevauche la bête comme un cavalier chevauche son cheval. Je lui donne une certaine direction. Intellectuellement et spirituellement, nous vivons un déchirement quant à cette réalité-là. Imaginez que vous êtes dans l'Empire romain, ce glorieux Empire romain, et que vous sachez et que vous savez ce qui se passe ici, là. Vous savez qu'elle est véritablement derrière cet empire-là. Il y a quand même des questions existentielles qui se posent à cet effet-là. Au temps de l'apôtre, les gens devaient se demander comment Rome peut-elle être aussi mauvaise alors qu'elle semble tellement extraordinaire? Elle semble tellement évoluée. Elle semble tellement puissante. Et la culture nord-américaine contemporaine est tout aussi impressionnante, vous savez, avec le vin de sa débauche. Comment cette culture-là peut-elle être aussi mauvaise, aussi corrompue, avec son IA, avec quoi que ce soit que vous voulez d'autre, ces découvertes qui se succèdent, qui s'accumulent et qui ne cessent de nous émerveiller. Et si vous êtes de mon âge, vous êtes complètement dépassé, hein, parce qu'écoutez, mais on se dit, comment est-ce que ça peut être aussi corrompu alors que c'est si beau, si grand et si puissant? On vous approche avec une coupe en or, aujourd'hui encore. Une coupe en or, vous savez, c'est une coupe en or, hein? C'est beau, c'est attrayant, quoi, une coupe en or. On vous approche avec une coupe en or pour vous dire, si tu en bois un peu, tu auras cette promotion, la coupe du monde. Si tu veux bien en boire, tu auras une position. T'as seulement qu'à boire et tu vas devenir riche au-delà de tous tes rêves. Oui, donc. Tu n'as qu'à boire de cette coupe et tu pourras vivre où tu le veux. Tu pourras aller en vacances où tu le veux. Tu n'as qu'à boire dans la coupe que Babylone te présente. Ça nous rappelle une vieille pub d'il y a quelques années, qui disait « un petit drink avant de partir hein? ». C'est un petit peu ce que le monde veut offrir aux croyants. Viens boire dans cette coupe du monde, cette coupe d'idolâtrie. Dans ce livre de l'Apocalypse, nous avons une sorte de trinité contrefaite. La bête sortant de la mer, le faux prophète et la prostituée. Et les trois œuvrent conjointement pour nous amener à la soumission au dragon qu'ils servent. Et vous noterez que leur popularité ne fait pas défaut. Hein? Nous lisons en effet au verset 8, « Et les habitants de la terre Bien sûr, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Et c'est le monde séduit. Les gens du monde qui n'ont pas le discernement du Saint-Esprit sont complètement omnubilés par la puissance et par les capacités de la bête. Et en recherche de dévotion, la bête, dans sa réapparition et son ascension en puissance, ne fait qu'imiter la résurrection de Jésus, rien d'autre. Elle ne peut rien faire d'autre, hein? Nous rencontrons ce thème d'ailleurs au chapitre 13 où l'une des têtes de la bête semble avoir reçu un coup mortel, mais voilà que ce coup fatal se voit guérir et toute la terre s'émerveille. Chapitre 13, verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle guérie, remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ces figures nous sont présentées pour une compréhension des enjeux qui sont en cours, des enjeux et de l'importance de notre posture en conséquence pour nous qui sommes au Christ Jésus. Et ça m'amène à mon deuxième point, la bête et sa puissance contre le Christ. Dans un deuxième temps, donc, l'ange donne à Jean la signification des sept têtes et des 10 cornes. Et il fait ainsi ressortir les puissances jointes à la bête dans sa lutte contre le Christ Jésus. Et le texte n'est pas à prendre à la légère, vous savez. Ce n'est pas un texte qu'on lit d'une manière informelle, hein. Verset 9 nous dit « C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. » Une drôle d'expression, hein? Intelligence qui a de la sagesse. Ça veut dire une connaissance reçue avec sagesse. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. On ne donne pas cours à notre imagination, non plus qu'à toutes les fabulations qu'on peut trouver dans bien des livres sur le sujet. On retrouve d'ailleurs la même mise en garde au chapitre 13, verset 18. « C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. » Et les premiers propos de l'ange à cet effet nous sont rapportés au verset 9 donc. « Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. » Bon, ben, c'est pas très compliqué. Il s'agit clairement d'une référence à Rome, la ville aux sept montagnes qui, au temps de l'apôtre Jean, représentait et la bête et le siège de séduction de la prostituée. La ville aux sept montagnes désignait Rome, comme aujourd'hui la ville des vents désigne Chicago et le Big Apple désigne New York. Vous voyez, alors à l'époque, c'était et cette montagne. Maintenant, les montagnes dans la Bible décrivent souvent les puissances spirituelles déployées contre Dieu. On trouve ça entre autres dans les prophètes, prophète Ésaïe notamment, Ésaïe 2:2, prophète Jérémie aussi, Jérémie 51:25, Ézéchiel 35:3. Les montagnes qui représentent cette espèce d'opposition à Dieu. Et tout cela s'harmonise parfaitement à la mise en garde aux églises de l'Apocalypse. La bête va monter de l'abîme, elle va centrer sa puissance à Rome, utilisant l'adoration de l'empereur pour persécuter l'Église. S'il nous semble simple de comprendre la mention des sept montagnes, il en va autrement du verset 10, qui a donné cours à nombre d'interprétations, certaines farfelues qui n'ont pas tenu la route d'ailleurs. Verset 10 nous dit « Ce sont aussi sept rois, cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester pour un temps. » Alors, ne s'agit pas ici d'y aller, comme plusieurs ont tenté de faire, d'une interprétation littérale des empereurs de l'époque. D'ailleurs, ceux qui l'ont fait n'ont jamais réussi à s'entendre, on n'a jamais réussi à faire coïncider les calendriers, etc., etc. Le symbolisme de l'Apocalypse ne nous permet pas une telle précision, mais nous communique plutôt des vérités d'une façon générale. Permettez-moi une citation du commentateur Dennis Johnson. Si vous voulez lire un bon livre sur l'Apocalypse, Dennis Johnson en a écrit un excellent. Alors, je traduis librement. La solution de ce casse-tête est très simple. Dans la mesure où on comprend que le message des 7 ou 8 rois ne dépend pas d'une expertise historiographique. 7 symbolise ce qui est complet, de façon à nous montrer que le règne de la bête aura cours tout au long de l'histoire de l'humanité déchue. Cependant, dans la perspective du plan divin d'établir son royaume sous le sceptre de l'agneau, le temps de la bête se voit écourté. À partir des 7, 5 sont tombés. Il apparaît que les lecteurs de Jean n'en sont pas à la fin du conflit des âges. Il reste un roi à venir qui doit régner pour un temps. Même si le dragon a été décisivement défait par le sang de l'agneau et qu'il lui reste peu de temps, l'Église doit être prête à endurer d'autres souffrances. Fin de la citation. La verset 11 nous dit que ce 8e roi-là qui va venir est de la même sorte, de la même nature, de la même étoffe que ceux qui l'ont précédé. Jean parle de la bête de la manière dont il parle de l'Antéchrist dans ses autres écrits. Il y a plusieurs antéchrists dans le monde actuellement, c'est ce que Jean nous dit également, mais un jour, un antéchrist va apparaître. Au verset 12, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Bon, ils représentent vraisemblablement les pouvoirs subordonnés qui assistent la bête impériale. Au moment de la rédaction de ce livre, Rome était organisée de 10 provinces et c'était principalement les leaders provinciaux qui persécutaient les chrétiens. Plus généralement, donc, ces 10 cornes symbolisent les puissances de cette terre sous tous ses aspects. L'art, l'éducation, le commerce, l'industrie, et le gouvernement en tant qu'autorité centrale. Et c'est encore ce que nous voyons aujourd'hui, et entre parenthèses, on y voit bien sûr « The Rainbow Faith and Freedom », ce mouvement subventionné par le gouvernement fédéral à hauteur de $500,000 en 2025 pour lutter contre l'Église. On est en plein apocalypse. La parole nous dit, ils ont donc un même dessein, versets 13 et 14, ils ont donc un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête, ils combattront contre l'agneau. Nous croyons, on s'étonne souvent de la pensée des médias qui enseignent, de la pensée des médias, de la pensée des enseignants, de la pensée des artistes, de la pensée des législateurs qui soutiennent des agendas clairement immoraux et destructeurs. Hein? On est à un point tel maintenant que les médias, en grande partie, je ne sais pas comment ça se passe en Europe, mais ici en Amérique du Nord, les médias n'ont pas de crédibilité aux yeux de plusieurs. Hein? On sait que on ne fait plus de journalisme, on fait de l'éditorial. On reçoit l'opinion du pseudo-journaliste, plutôt que de recevoir une nouvelle objectivement présentée. Puis là, c'est un ex-journaliste qui vous parle. L'explication est un peu plus simple. Dans leur rébellion contre Dieu, dans leur rejet de Christ, ils entrent parfois très consciemment, parfois inconsciemment, parfois semi-consciemment au service de la bête qui les anime de l'esprit séducteur de l'abîme. Maintenant, la seule résultante possible de cette guerre-là, écoutez, quelles que puissent être pour un temps les souffrances de l'Église, c'est la victoire totale du Christ au verset 14. L'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés et les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. C'est pas extraordinaire, c'est nous autres, ça. Et ça nous amène à mon troisième point, la bête et sa destruction. Je pense toujours proche de me tremper le micro dans le verre. La dernière leçon que le Seigneur veut nous enseigner par la plume de l'apôtre Jean ici, c'est la nature autodestructrice de la société. Ça, c'est intéressant, hein? Quand on lit Romains 1, par exemple, on se rend compte que le premier châtiment pour le péché, c'est de livrer les gens à leur péché. Hein? Dieu n'est pas en train de venir les taper d'abord. Non, il les livre à leur péché destructeur et ils s'autodétruisent en quelque part. Et ce n'est rien de nouveau. Hein? Dans l'Ancien Testament, on a vu de grandes armées à vues humaines infiniment plus puissantes qu'Israël qui tentaient de s'en emparer jusqu'à ce que le Seigneur les fasse se battre entre eux et littéralement s'autodétruire. Et c'est bien ce que nous voyons ici, alors que Satan est en train de bâtir avec toutes les nations une anti-Église, jusqu'à ce que le Seigneur de la véritable Église vienne confondre chaque nation et chaque langue. Lorsqu'on considère le texte, lorsqu'on considère la relation de la bête et de la prostituée, on serait porté à s'attendre à ce que la bête tyrannique prennent soin de la prostituée. Hein? Ils ont semblé de très bons complices pendant un bon moment. Mais c'est tout à fait le contraire qui se produit. Au verset 16, il nous est dit, « Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront. » Oups, ça se tourne en haine subitement. « Haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. » C'est une bonne nouvelle. Après avoir profité de ces séductions, les puissances du monde se tournent contre la prostituée jusqu'à la détruire. Et la raison est simple, voyez-vous. Ultimement, les plaisirs du péché déçoivent. Les plaisirs du péché tournent en frustration. Les plaisirs du péché tournent les pécheurs les uns contre les autres. Nous avons nombre de belles leçons à tirer. Ne cherchons pas l'adoration du monde. Ne cherchons pas à être bien vus du monde. Lorsque notre fils était jeune, on a rapidement réalisé qu'il avait un très beau don pour la musique. Et on désirait ardemment son développement. En même temps qu'on priait pour ne pas qu'il réussisse, on ne voulait pas le voir dans les hauteurs devenir un superstar qu'on adore. On sait de quel monde il s'agit. J'ai passé plus de 20 ans en radio, très près du monde du spectacle, je sais comment ça se passe. Et c'est pas plus pur qu'ailleurs, si vous me passez un euphémisme. Alors ne cherchons pas l'adoration du monde. C'est un univers tellement pervers. Satan et ses puissances n'ont aucun amour à donner à ceux et celles qui exercent son pouvoir tyrannique, vont rapidement perdre tout respect pour la dignité de la vie humaine. On n'a qu'à penser à l'avortement, on n'a qu'à penser à l'aide à mourir. On appelle ça de l'aide, mais... Est-ce qu'il y a un autre mot qu'on pourrait choisir, là, entre... Pardon? Voilà. Hein? Laissez-nous vous suicider, comme on pourrait dire. L'aide à mourir, l'avortement. Belle manifestation hier. Je ne sais pas si ça s'est fait à Montréal, ça s'est fait à Québec. Ça a bardé un peu, d'ailleurs, en face du Parlement. Il y a eu une manifestation pro-vie. Et les pro-choix sont arrivés, bien sûr, parce qu'on ne laissera pas les conservateurs. On ne laissera pas les gens bien-pensants exprimer des opinions correctes. Hein? C'est la lutte toujours de la bête contre le Christ et contre ses saints. Mais la raison ultime Passez-moi l'expression québécoise, de se vire capot, parce qu'il y a eu un vire capot de la bête ici et de la prostituée, est à chercher dans la volonté de Dieu. Verset 17, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Dieu a lui-même placé un principe d'autodéfaite parmi les incrédules. Et c'est le premier jugement contre le péché, comme on le mentionnait tantôt. Finalement, pour réduire les choses à leur plus simple expression, et nous terminerons là-dessus, toute l'histoire de l'humanité se divise entre deux femmes. Oh. Rappelons-nous qu'au chapitre 12, nous sommes venus en contact avec la femme, l'enfant et le dragon. Et c'est l'Église, le Christ et le malin qui est la première bête. Au chapitre 17, nous avons cette femme avec son nom écrit sur son front, Babylone. Encore la femme qui est là. Et ces deux femmes-là sont mères. Celle de l'Église d'où vient le Christ, la mère de tous les fidèles, n'est-ce pas? Babylone, quant à elle, est la mère, nous est-il rapporté, au verset 5, de toutes les impuretés, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Les deux ont des conjoints. L'Église a comme épouse le Christ. Babylone, la péripatéticienne, pour employer un mot gentil, s'est donnée au roi de la terre. L'une va régner éternellement, alors que selon le verset 12 du chapitre 17, l'autre va régner pendant une heure. Il nous est impératif de faire un choix clair et persévérant, bien-aimé, qui allons-nous épouser? Et ces visions-là nous sont données afin que nous puissions voir le monde dans ce qu'il est vraiment. Oui, à bien des égards, le monde est rempli de la gloire de Dieu, mais il est tordu par le péché, incliné vers le mal. Et nous avons besoin de réaliser la puissance et le caractère persuasif de Babylone et de ses tentations. Nous voyons clairement que les fondations morales de la société se voient sapées, alors que les coutumes et les lois mondaines prennent le pas sur les commandements de Dieu. Le jour du repos, quatrième commandement. Le respect des parents et des autorités, cinquième commandement. Le sixième commandement, la dignité de la vie humaine, le caractère sacré de l'alliance, du mariage entre un homme et une femme, septième commandement. La malhonnêteté, huitième commandement. Le piétinement de la vérité, neuvième commandement. Les convoitises de toutes sortes, dixième commandement. Et au-dessus de tout cela, il y a les trois premiers commandements quant à notre relation avec Dieu qui sont les plus importants. La puissance de cette méchanceté qui engendre ce bris fondamental nous semble impossible à vaincre, mais nous savons qu'elle est vaincue. Nous ne devons cependant pas abdiquer notre responsabilité de témoin loyal du Seigneur Jésus, notre roi, confident que nous sommes qu'au dernier jour, nous verrons la face de Dieu face à face, en quelque sorte, en Christ Jésus. Comme l'a si bien dit un réformateur, et je termine là-dessus, ne soyons pas effrayés, même si le monde entier, toutes les écoles et toutes les églises, toutes les puissances, tous les gens sages et instruits devaient tomber dans ce piège-là et être en colère contre la parole de Dieu, nous devons poursuivre l'œuvre de l'Évangile de Jésus, notre roi. Amen. Notre bon Père Céleste, notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole. Comme disait un puritain, Seigneur, bien des gens qui veulent se reposer, qui veulent se refaire, veulent aller passer un moment à la campagne. Mais le meilleur endroit pour trouver notre repos, notre assurance et notre paix, c'est en ta présence, dans ta parole. C'est une parole de vie qui nous relève. C'est une parole de vie qui nous asperge de tellement de promesses sur notre Dieu, qui nous rappelle ce que tu as fait de nous et à quel point il nous est important de garder les yeux rivés au bon endroit. Rappelle-nous, on a tellement besoin de l'entendre et de le réentendre, que nous ne sommes que de passage dans ce monde-ci. Nous sommes des pèlerins. Nous ne sommes pas en train de nous installer à jamais, bien au contraire. Personne n'est installé à jamais dans ce monde temporaire qui se dirige vers un jugement certain. Elle est belle ta parole qui nous dit que c'est un monde temporaire, mais que nous sommes appelés à vivre dans une habitation éternelle. Kata oikos, une demeure éternelle au Dieu Saint. Rappelle-nous ces révélations, ces vérités si importantes qui ont besoin encore de nous garder debout, de nous stimuler. Quand on regarde autour et qu'on voit tout ce qui se passe, qu'on voit l'écroulement total de la culture, et on le voit partout, on le voit dans notre système de santé, on le voit dans tout ce qui existe, dans les performances ou les non-performances des différentes agences gouvernementales et autres, sans tomber dans un négativisme absolu, on se rend compte qu'il y a une décomposition évidente qui est en cours actuellement. Mais nous regardons à toi et nous savons que c'est ton monde. Et c'est un monde que tu vas renouveler, ô Dieu, et auquel nous serons partie prenante et nous t'en bénissons. Seigneur, donne aux parents de bien enseigner leurs enfants dans la foi, alors qu'ils sont jeunes. Donne aux parents de ne négliger aucun sacrifice pour donner à leurs enfants tout ce dont ils ont besoin et pour les garder, non pas les encabaner, mais pour les garder à l'abri de ce monde prédateur-là, qui ne recule devant aucun moyen. Donne-nous, pour nous qui sommes des époux également, d'assumer notre leadership dans le foyer, pour s'assurer, Seigneur, du bien-être et de la continuation des épouses que tu nous as confiées aussi. Et que nous sommes appelés à aimer comme tu aimes l'Église et que nous sommes appelés à te présenter également. Et elles sont notre responsabilité. Donne-nous à nous-mêmes de nous garder fermes et fervents en toi. On sait, Seigneur, que l'un des grands dons du monde, c'est de trouver des excuses. Oui, j'aurais bien voulu, mais... On sait qu'il n'y a pas d'excuses, on sait qu'il n'y a pas de mais. Nous sommes appelés à suivre notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés à mettre nos pieds dans l'empreinte de ses pas, parce que ces pas-là nous conduisent tout de go vers l'éternité future, qui est devenue nôtre par son sacrifice parfait. Sois béni, ô Dieu Tout-Puissant, au nom précieux de ce glorieux Sauveur. Amen.